La Bringue.
T'arrives, on fait une guitare et tu sais pas si elle va marcher.
Le cerveau d'un musicien est différent, physiquement.
Il y a des décérébrés à faune qui tapent sur des gamelles en croyant faire de la musique, en bramant des mots imbéciles. Je n'aime pas ça.
Grâce à la musique, on peut vivre des choses qu'on ne pourrait pas connaître en dehors de l'univers du son.
Ok.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Paris, c'est Juliette pour La Bringue, notre rendez-vous mensuel immanquable dédié à la culture rock. Alors comme d'habitude, je suis aux côtés de Louise. Salut Louise.
Salut Juliette.
Mais pas de Flavie pour cette fois-ci, parce que voilà, Elle préfère aller voir Johnny Mafia et Johnny Carwash au
elle
petit
bain.
Elle
nous aime
pas. Voilà, plutôt que de faire de la radio, non mais sérieusement. Bon, on peut pas lui en vouloir. D'ailleurs, on vous conseille carrément d'aller écouter les Johnny du moment, Johnny Mafia, Johnny Carwash.
Ouais.
Mais nous, ce soir, on consacre cette émission au label indépendant. Vous savez, ces passionnés tapis dans l'ombre des artistes qui les aident à sortir des disques, à organiser des concerts, des rencontres, à les faire vivre un peu aussi, hein, en quelque sorte. Nous sommes donc très heureuses d'accueillir ce soir Manon du label toulousain Hidden Bay Records. Salut Manon.
Bonsoir.
Mais aussi François du label parisien Betty Records. Salut François.
Bonsoir.
Et Anton qui est à la tête du label Le Cep Records.
Mais bonsoir.
Salut.
Salut Anton. Alors au sommaire de cette émission, on parle musique évidemment en vous présentant les artistes qui sont signés chez les labels que l'on vient de citer. Ensuite, on aura un petit œil sur l'agenda parce que Flavie nous a quand même concocté un petit agenda de concert même
oui,
si elle n'est pas là.
On t'aime quand même Flavie.
Et puis on discutera plus largement autour d'une grande question, c'est quoi être un label indépendant en 2021 ?
La Bringue.
Et donc on écoute tout de suite. Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez La Bringue. Nous sommes avec Manon, François et Antoine pour parler de leur label indépendant. Est-ce que vous vous connaissez un peu, vous trois ?
Oui, on s'est déjà croisés à l'international, peut-être à la Villette aussi. Et François, il connaît tout le monde, donc on s'est croisés partout.
Ouais, effectivement, on s'est croisés depuis quoi, 4-5 ans ? Ça fait 5 ans que ça existe, Hidden Bay déjà ?
5 ans et demi, ouais. 5 ans et demi.
Ok, et alors petite présentation rapide. Manon, tu fais partie du label Hidden Bay Records, Hidden Bay Records, ouais. À Toulouse. On vous connaît notamment pour les groupes comme Oi Boys, Pam Rizourier ou Special Friends. Friends, oh là là, je vais y arriver ce soir. C'est un mercredi soir, excusez-moi. D'ailleurs, Special Friends est aussi sur le label Buddy Records, un label parisien dont tu fais partie, François. On vous trouve également des bonnes pépites chez vous, chez Buddy. Il y a Tapeworms, il y a En attendant Anna. Et pendant ce temps, celui qui est à la tête du label Le Cep Records, Anton, tu nous as trouvé aussi pas mal d'excellents artistes. We Hate You Please Die, qu'on vient d'entendre. You Said Strange ou encore Die Crap. Enfin bref, que du beau monde ce soir.
Et donc moi j'ai une petite question, la première, c'est quoi pour vous un label indépendant ?
Il se lance la balle, silence.
Un label indépendant, je pense que ce qui nous rejoint, enfin dans lequel on se rejoint, c'est le côté esprit, c'est-à-dire on fait tout seul, déjà par moyen, concrètement, par moyen financier, enfin
la passion aussi.
En plus, mais les deux vont ensemble malheureusement.
Bon. Ouais, j'aurais dit manque de moyens plutôt que moyens, mais.
Voilà, c'est un peu ce à quoi je pensais. Et ouais, non, effectivement, ouais, la passion, cette idée de vouloir faire découvrir des groupes qu'on adore et qu'on a envie de faire découvrir à d'autres personnes, en fait.
Vous êtes d'accord en face ?
Oui, on est d'accord, oui, bien sûr. Okay, non, super. Après, ce côté indépendant, c'est sûr que c'est pas un milieu facile. Oui. Et on essaye tous de s'entraider dans les coproductions, dans beaucoup de sorties aussi, dans les concerts. Donc c'est aussi de la visibilité qu'on essaye de mettre en place, quoi.
Il y a de la solidarité, du coup. Exactement. Entre vous diriez. Super.
C'est un peu ça, l'indépendance.
Ça fait plaisir, quand même. Ouais.
C'est une indépendance à plusieurs, en fait, si on peut dire.
Oui, ouais. Puis il y a des labels un peu dans chaque ville, même dans des petites villes. Donc il y a moyen aussi de s'envoyer, entre guillemets, des groupes dans les tournées, pour les petites salles. Et les co-sorties, ouais, c'est un peu le... Moi, je trouve ça très important, encore plus maintenant que les coûts ont augmenté, les coûts de production, par exemple, du vinyle. Et ça aide beaucoup d'être à plusieurs labels sur une sortie.
Ouais, mais c'est vrai que le côté financier dont on parlait tout à l'heure, malheureusement, on doit passer par là, mais ça nous permet de nous forger un petit réseau, comme tu disais, Manon, de pouvoir envoyer des groupes, de créer des... Ouais, un petit réseau à plusieurs, en fait. Parce que c'est plus facile à plusieurs.
Et justement, tu parlais de réseau, et en fait, vous avez tous eu envie, à un moment donné, de créer un label, ou alors de vous investir dans un label qui existait déjà. D'où elle est venue, cette envie de faire un label comme ça, indépendant ?
Il suffit des fois de tomber sur un groupe qui n'a pas de label, ou qui a juste sorti quelques titres, comme ça, juste sur Bandcamp. Et je pense que, pour moi, ça devait être ça... Tu tombes sur un groupe et tu dis, ah, peut-être qu'il y a un petit créneau à prendre, on va monter un label. Et ensuite, les sorties, elles s'enchaînent parce que forcément, on découvre plein de groupes, de jeunes groupes qui ont besoin d'aide, d'un petit peu de soutien, que ce soit financier ou juste un soutien moral.
Ouais, l'amour de la musique, la passion, comme on dit, on revient. Mais surtout, se dire, on se bouge le cul pour un groupe qui est peut-être pas connu et on essaye de le monter comme on peut.
Ouais, c'est des opportunités en fait qui se créent, notamment sur Bandcamp. Quand on parle de Bandcamp, c'est un peu notre fer de lance maintenant. Quand on voit des grosses sociétés comme Spotify, Deezer, etc. qui essayent de phagocyter un petit peu la musique. Pardon. Nous, on essaye d'être avec Bandcamp justement, de permettre de créer autre chose. Et je pense que l'indépendance, maintenant, passe par Bandcamp, effectivement.
Mais ça, ouais, on va vous parler justement.
Voilà, justement, on allait. Vas-y, Louis, je te laisse la parole. Ah, bon, j'allais vous dire qu'on a toute une partie de notre interview sur Bandcamp. On aimerait bien revenir dessus après, parce qu'on trouve que c'est quand même une plateforme intéressante, surtout quand on est artiste ou alors label indépendant. Mais juste avant, moi, je repensais à quelque chose. C'est est-ce que c'est un moyen pour vous, en tant que label indépendant, de donner de la visibilité à une scène indépendante elle-même, qui est souvent ignorée par les majors, par Sony, par Universal et par Warner?
Underground.
Ouais, je sais pas si le but c'est de devenir mainstream après ou qu'ils grandissent tant que ça les groupes, c'est pas notre but. Hein. Enfin, chez Buddy en tout cas, c'est plutôt déjà dans notre petit milieu de permettre à un public qu'on connaît de connaître d'autres groupes. Ensuite, si ça devient plus grand comme Way to Please Die par exemple qui commence à exploser, très bien, mais au départ, c'est pas l'objectif. C'est
surtout dans ce milieu garage punk, c'est très compliqué, quoi. On n'est pas sur de la pop ou du rap qui est plus facile de nos jours, quoi.
On cherche pas la notoriété.
On cherche pas la notoriété, mais si ça pète, tant mieux. Voilà.
Ouais, c'est l'idée de créer un monde parallèle. Enfin, les deux se complètent, le mainstream et les musiques vraiment un peu plus de niche, on va dire. Mais l'idée, c'est de proposer autre chose à côté.
Ça permet quand même de donner un peu de visibilité à cette scène qu'on dirait underground, entre guillemets, je suppose. En fait, vous voulez pas passer dans le mainstream forcément, mais il y a une voie qui est donnée.
C'est juste que la volonté n'existe pas, je pense. Okay. Si elle se fait, si elle se crée, qu'on parlait d'opportunité tout à l'heure, si l'opportunité se crée, tant mieux. Parce qu'après tout, ouais. Tous les artistes, enfin, la plupart des artistes quand même, voudraient rencontrer plus de public. Je pense que c'est quand même un objectif malgré tout. Ouais. Mais c'est plutôt de créer quelque chose de bienveillant, un réseau bienveillant, si c'est possible, à notre échelle. Après, on voit ce qui se passe, quoi. Mais...
Après, ça reste à votre échelle. Je pense que vous cultivez l'underground entre vous aussi. Et puis, il n'y a pas de volonté forcément de faire tout exploser. C'est aussi, ça se cultive entre soi aussi, hein, l'underground, j'ai l'impression.
Ouais. Ouais, puis ça, c'est notamment subjectif. Hein, suivant les groupes, tous sont pas du tout les mêmes ambitions, les mêmes attentes. Moi je serais prête à faire un travail différent pour un groupe qui a envie de grossir et de grandir et puis un artiste qui a envie de continuer tout seul dans sa chambre. À la limite c'est un travail différent mais ça dépend vraiment des attentes de chacun et de chacune.
Et puis là je pense qu'on peut parler du live justement, ce côté de créer une attente, ensuite proposer des concerts. L'objectif c'est aussi que le groupe ou l'artiste se produise en concert. Je pense que ça, c'est un objectif qu'on partage.
Ben forcément.
Et forcément. Justement, on parle de vos groupes, là, de vos labels. Tous les trois, vous avez quand même une base assez punk, assez rock. Après, quand on ouvre les tiroirs, il y a forcément shoegaze, dream pop, post-punk et bien plus de genres, mais on n'est pas là pour donner des étiquettes. Mais je me demande comment vous choisissez justement vos artistes, les artistes que vous signez.
Bah, je vais commencer. C'est complètement subjectif. C'est vraiment, moi, je fonctionne en coup de cœur. Donc, j'écoute. Après, il n'y a pas de style du moment ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment en coup de cœur. Si ça me plaît, je donnerai tout pour le sortir. Ouais.
Un coup de cœur que tu vois en live ou tu tombes sur une démo.
Démo, ouais. Coup de cœur de live. C'est un peu un mix de tout, quoi.
Ok. On vous envoie des démos.
C'est mal. Énormément.
Ouais, beaucoup. Okay.
Énormément. Tous les jours, je pense que je reçois deux démos par jour.
Ah ouais.
Est-ce que tu te souviens d'un coup de cœur, justement, que tu as eu comme ça et qu'après tu as signé
Récemment ou...
Peu importe, même dans l'histoire du label.
C'est dur à dire. En fait, je ne peux pas trop dire de choses parce qu'il y a des trucs qui vont se passer pour l'année prochaine.
Surprise.
Je reste un peu sur le... On ne sait pas trop, mais ça va sortir.
D'accord. Okay. Manon, t'en as une peut-être ?
Ouais, moi souvent, c'est, je vais passer pas mal de temps justement sur Bandcamp, ce genre de plateforme, et souvent c'est quand il y a des guitares, ça me plaît. Après, j'ai pareil, il y a pas de style vraiment prédéfini. Et des démos, oui, j'en reçois aussi plusieurs par semaine. Et c'est arrivé assez fréquemment en fait que j'accepte de sortir quelque chose qu'on m'envoyait. Et assez récemment, Benjamin Belinska, c'était au printemps dernier, je crois, un artiste anglais, qui m'a envoyé un mail vraiment très sympa. Et Bon, dès le premier mail, souvent, enfin, je vais écouter, j'aime bien, mais il y a aussi la manière dont la personne va formuler les choses. Et si tu sens que la personne est assez chouette, ça donne plus envie, c'est sûr.
Et François, du coup ?
Alors, du coup, moi, c'est un petit peu différent parce que j'ai rejoint Buddy il y a 2 ans seulement. Donc, bon, je ne vais pas parler au niveau des copains, mais par exemple, Si Naïve, c'est un groupe que nous, on a découvert en fait grâce à Renaud Sachet sur Section 26. Donc, coucou Renaud, si tu nous écoutes. Et du coup, on s'est dit, oui, je pense que ce groupe-là, on avait vraiment envie de l'aider à se faire connaître parce qu'ils avaient sorti que du digital au départ, des EP en digital. Et donc, on s'est dit, bah, vas-y, on va essayer de faire une sortie vinyle. Et puis, voilà, ça s'est fait naturellement ensuite par mail.
Si Naïve qui sera dans la playlist de tout à l'heure avec les morceaux des artistes de nos 3 labels.
Si je peux dire un petit truc, on parlait en attendant Anna tout à l'heure, oui. Donc si on veut parler d'un truc qui va sortir, je vais prendre sous mon aile, comme on peut dire, la petite sœur de la chanteuse, qui a un groupe qui s'appelle SOS Citizen.
Oui, oui.
Voilà, et du coup on va bosser ensemble, donc voilà, petit spoil.
De l'inédit dans la bringue.
Attention, on adore ça.
Big up.
C'est ça. Ils ont notamment fait un concert à Dame de Canton, c'est ça? Ouais. Ok, très bien. On attend ça avec impatience.
Et justement, chez Buddy Records, donc tout le monde, vous sortez tous des disques, hein, bien sûr. Mais chez Buddy Records, on a remarqué que vous sortez beaucoup de compilations aussi. À la base, il y en avait quand même pas mal. Et encore plus étonnant, si je puis dire, vous sortez des cassettes. Alors c'est drôle, puisque les cassettes, c'est plus trop à la mode. Mais peut-être que ça va revenir, attention. Ça servira pas seulement à caler le frigo. Peut-être que ça va revenir pour vraiment écouter de la musique. Et aujourd'hui, on écoute plutôt de la musique voilà, sur Spotify. On fait des playlists, même sur YouTube. Pourquoi chez Buddy, vous avez choisi de faire encore des compiles en cassette?
En fait, les compilations en cassette, ça a commencé parce que les gars qui ont créé le label, du coup, Victor et Charles, en fait, ils avaient un Tumblr avant, ils avaient un blog musical où ils faisaient déjà des compilations, mais que en numérique. Et au moment de créer Buddy, ils se sont dit, bah, pourquoi pas faire des cassettes pour que ce soit un petit peu plus concret, pour passer à une étape suivante, de, voilà, quitte à créer un label, autant que ça soit du physique avec, et d'où la cassette. Et effectivement, les compilations, c'est un bon moyen de permettre de faire découvrir plus de groupes d'un coup, finalement. Donc toujours cette optique de faire découvrir des groupes et ensuite les inviter en concert.
Et ça vend bien les cassettes? Parce que je crois que j'ai vu qu'il y avait un petit renouveau de mode de la cassette, un peu comme on a eu, pas aussi fort hein, qu'on a eu avec le vinyle du tout, mais il y a eu un moment, un petit débat il y a quelques mois.
Bah, bon, pour le coup, on va pouvoir en parler avec Manon, parce que le label Hidden Bay est spécialisé en cassette au départ, en tout cas. Et non, en fait, c'est pas une question de renouveau, c'est plutôt que ça... En fait, ça a toujours existé dans l'underground, pour le coup. C'est vraiment indépendant, la cassette. C'est vraiment l'objet le plus facile à produire, à vendre. C'est plus une question de, je pense, je sais pas ce que t'en penses, Manon, mais c'est de cette idée de soutenir, en fait, le groupe, de dire, ok, ça vous permet d'exister. Première cassette et après autre chose peut-être.
Ouais, c'est beaucoup plus facile à produire, enfin à faire. Les délais n'ont rien à voir avec ceux du vinyle. Donc il y a ça aussi pour un groupe qui débute, leur dire ok dans 3 semaines, je pourrais vous envoyer la cassette comparé aux quasi 6 mois. On en parlait tout à l'heure, quasi 6 mois maintenant du vinyle. Il y a une grosse différence. Et moi c'est quand j'ai monté le label avec une amie Cécile. On n'avait pas beaucoup d'argent à investir et la cassette, c'est quand même pas très cher à faire. Encore que les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années. Et c'est jamais vraiment parti, mais effectivement, comme disait François, ça, c'est un truc un peu de niche dans certains styles de musique. Au concert, on voyait toujours des cassettes. Là, j'ai l'impression que les groupes, même assez connus, vont faire un peu de cassettes, un peu de CD, un peu de vinyle. Disons que c'est un format qui vient compléter les autres. Et puis esthétiquement, moi j'aime bien. La pochette carrée, c'est quand même la petite pochette carrée, c'est chouette.
Ouais. Le côté vintage, c'est un peu ce qui a plu aussi dans le vinyle finalement.
Ouais. Ouais, après, bon moi c'est. Je suis un peu peut-être réac, mais j'écoute pas du tout de musique sur les plateformes de streaming. J'ai pas de smartphone, donc je reste vraiment attachée au format physique. Donc pour moi, il n'y a même pas cet attachement rétro. J'ai toujours fait des compilations cassettes quand j'étais ado avec les radios. Donc j'ai juste continué en fait ça.
Et du coup, est-ce que vous produisez des vinyles, enfin, quand vous vendez des disques via votre label, vos labels, vous vendez des vinyles, vous vendez presque plus de CD, j'imagine ?
Des CD, ça revient un petit peu toujours pour la province, pour les radios, pour plein d'autres choses. Mais ça marche aussi pour la promo. Et c'est très pratique, les CD. Après, les vinyles, évidemment, les cassettes, ça marche, mais ça marche énormément en concert.
Ouais. Bah comme enfin, les CD, non, si je dis pas de bêtises, il y a...
Un peu aussi, ouais, mais ouais. C'est vrai que les cassettes, ça marche bien en concert. En tout cas, je parle pour le label, nous, on vend pas vraiment de cassettes de notre côté. Mais c'est vraiment les groupes qui vendent leurs cassettes, quoi.
Tu voulais réagir, François ?
Non, bah, juste une dernière chose sur la cassette. Je pense aussi que, comme première sortie, c'est rassurant pour un groupe de toucher quelque chose, de dire, OK, on a dépassé le stade de la démo, dépassé le stade du fichier MP3, etc. On a une cassette en main. Voilà, c'est quelque chose de concret.
Ouais,
on peut enchaîner. Oui, bah, c'est l'objet, mais littéralement. C'est un objet.
Je suis d'accord.
Et tout à l'heure, on parlait des lives, de l'importance des lives. J'imagine que déjà, on peut vendre des cassettes, vendre des vinyles à des concerts, avoir un merch. Mais en plus de ça, ça vous permet de tisser un réseau, de rencontrer du monde. Enfin, c'est vraiment, les concerts, c'est quand même le point de rencontre, je pense, de la musique indé. Et je me demandais, justement, ça vous apporte quoi en plus, tous ces concerts, pour votre label ?
Ça permet au groupe de d'écouler leur stock, je dirais. Au label aussi, quand on a la chance d'avoir, enfin, d'être sur place et d'avoir un stand de merch après. Et ensuite, oui, il y a aussi cette manière où on peut échanger des choses. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les distros. Donc, ça va être des gens dans d'autres villes qui vont avoir un stock d'autres labels, en fait, en plus de leur label. Et ça, c'est assez pratique. Dans cette idée toujours de réseau, de développer un réseau.
Et donc nous, ici à Paris, on sait qu'avec Buddy Records, avec le CEP Records, vous organisez pas mal de soirées à l'international, dans le 11e. Mais Manon, du coup, sur Toulouse, tu organises des concerts aussi avec Eden Bay Records ?
Ça m'est arrivé quelques fois et j'aimerais bien développer la partie booking. Après, là, je suis toute seule, donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup de...
C'est un sacré boulot.
...de boulot d'organiser. Mais là, récemment, il y a 10 jours, j'ai fait jouer Inin. Un groupe dont j'avais aidé à sortir l'album à Toulouse, et ça c'est vrai que c'est assez gratifiant de pouvoir faire découvrir des groupes de cette manière-là, pas uniquement avec une page Bandcamp, mais pouvoir amener vraiment le groupe et dire au public toulousain bah voilà, avec qui on travaille. C'est vrai que c'est encore mieux, je pense.
Et t'es venue à Paris pour organiser un concert, du coup?
Pour jouer, parce que j'ai aussi un groupe
dont
j'ai joué
okay.
La semaine dernière.
Comment s'appelle-t-il?
Et ça s'appelle Docs.
Il faudra qu'on fasse une émission avec Docs, alors.
Carrément.
Ça serait ouf.
Un petit live, c'est vrai. Acoustique, ce serait pas mal.
Et bien justement, en parlant de concert, on en a une qui devait bien se rattraper. Hein, c'était Flavie, parce qu'elle n'est pas là. Et donc, ce soir, elle nous a quand même envoyé une petite capsule. Allez, à vos agendas. Vos agendas. À vos agendas. On écoute tout de suite Flavie, qui nous fait un petit récap des concerts à venir.
Bonsoir à toutes et à tous, l'émission étant en direct, je ne suis pas avec vous ce soir pour cause de concert. Et oui, ma place était prise depuis un bail pour Johnny Mafia et Johnny Carwash à Petit Bain, et c'est le genre de plateau que je ne veux pas manquer. Mais si vous écoutez le podcast de l'émission, peut-être que vous aussi vous y étiez, et je suis sûre qu'on a passé une bête de soirée. D'ailleurs, bête de soirée, Petit Bain, ça me rappelle que je ne peux pas ne pas vous parler de la soirée Les Femmes S'en Mêlent, avec Otis Kerr que j'adore, mais surtout une découverte pour moi, les Américaines de Gustav. Ce fut un concert hors norme, du genre qui vous dérange et qui vous fait du bien. Qui dérange car la très charismatique Lydia, au chant, est incroyable de prestance, tout en grimaces. Elle est entourée d'une batteuse de folie, d'une bassiste avec une classe dingue, d'un guitariste au top, mais surtout, surtout, d'une fabuleuse Tara, tout sourire, une boule de bonne humeur dont le rôle est d'amuser la galerie tout en faisant des percus avec à peu près tout ce qui a dû lui tomber sous les mains. Un cochon qui fait pouette, ce que je pense être une boîte de conserve écrasée, des maracas homemade, chaque morceau avait son objet, tous plus insolites les uns que les autres, c'était un régal de fraîcheur vraiment. Si vous avez l'occasion de les voir en live, mais foncez, et pour vous donner un aperçu, voici un extrait de Best Behavior. La voix déformée que vous entendez, c'est d'ailleurs celle de Tara, qui en plus des accessoires avait des effets de haute qualité sur sa voix.
This is my best.
reste à Petit Bain, décidément, qui nous propose demain une soirée We At You Please Die, Miss France, deux groupes rock qui décoiffent et dont les lives ne peuvent pas vous laisser dans l'indifférence. Moi perso, je serai au Trans et au Bar en Trans à Rennes, où je pourrai aussi voir Miss France, ainsi qu'Orsiz, Burst, Unschooling, Arthur Satan ou encore Opinion. Opinion que vous pourrez voir aussi avec Train Fantôme et Wonderflu à l'International à Paris le 18 décembre, après le marché de Noël des labels. Opinion, ils sont de Bordeaux, qui pourraient bien détrôner Rouen niveau effervescence de groupe, avec des groupes comme TH d'Afrique, Seas ou encore Pretty Inside. Le 21 décembre à l'International aussi, oui, je ne fais que deux salles de concert en ce moment, il y aura la soirée La Face B, qu'on salue, avec Félix, Nord Belgrade et Dennis and the Roses. J'ai aussi noté la release partie de You Set Strange à la Maroquinerie le 17 décembre et Keep Dancing Inc. le 25 décembre au Supersonic pour ceux et celles qui ne fêtent pas Noël. Que ce soit votre cas ou non, je vous souhaite en tout cas des bonnes fêtes de fin d'année et plein de vinyles, de CD, de cassettes, de places de concert et de livres sous le sapin. Ciao.
Waouh, merci Flavie.
Merci Flavie.
Flavie qui doit être en train de pogoter sur la péniche du Petit Bain. Ouais. Allez, nous aussi dans les studios de Radio Campus, on est un petit peu fatigués ce soir, mais on fait quand même la bringue. Hein, donc on va écouter tout de suite Safety Crash de Tapeworms. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez La Bringue. On vient d'écouter Tapeworms, le morceau Safety Crash. Et nous sommes toujours en compagnie de Manon, François et Anton pour parler de labels indépendants. Alors je rappelle quand même vos labels respectifs pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. Hidden Bay Records, Buddy Records et le Sep Records. Alors juste avant, on parlait de concerts, notamment ceux que vous organisez vous-même. On parlait de l'international, on parlait de Toulouse aussi, qui est à Paris ce soir. Et ma question c'était, est-ce que vous vous reconnaissez du coup dans l'esthétique DIY, dans le do it yourself?
Oui, complètement. Ouais. Bah, après, je connais que ça parce que je suis vraiment amatrice. Mais moi, ça m'évoque vraiment faire tout soi-même de A à Z. Et c'est le cas. Après, on trouve toujours plus DIY que soi. Et par exemple, moi, je duplique pas mes cassettes moi-même. Je vais faire ça par une usine. Et je sais qu'il y a pas mal de petits labels qui font vraiment tout eux-mêmes. Donc, je sais pas si je peux dire que je fais tout moi-même de A à Z, mais quand même, ouais, je pense qu'on. Je sais pas, on doit partager ça aussi.
C'est du boulot. C'est du gros boulot même.
Ouais, totalement.
C'est du temps.
Bah, c'est surtout le côté s'adapter en fait. Dès qu'il se passe quelque chose, faut vraiment être réactif parce que, bah voilà, comme on disait, les vinyles par exemple, ça met un certain temps maintenant avant d'être pressé. Donc, si on a un problème par exemple de pressage, faut rebondir directement. Ouais, je pense que ça, do it yourself, c'est le côté, ouais, c'est adapter tout le temps.
T'as une question, Louise ?
Non, j'écoutais. C'est vrai, si, il y en a plein, hein, mais...
mais justement, est-ce que cette posture DIY, do it yourself, c'est un moyen pour vous de vous revendiquer en tant qu'amateur ? Tu disais que tu te sentais amatrice.
Ouais, complètement, ouais. Ouais. Je trouve ça bien de pouvoir montrer au plus grand monde qu'on peut faire des choses avec assez peu d'argent, du temps, ça, bon, il en faut quand même beaucoup.
De l'énergie.
De l'énergie de aussi. L'énergie. Mais je veux dire, on peut faire des choses, on peut travailler avec pas mal de groupes. C'est bien de pouvoir montrer ça, je trouve. Ouais.
Et pourquoi amatrice, du coup, vu que tu as quand même ton label ? C'est une question au niveau des revenus ou c'est...
Ouais, bah, disons que j'ai un travail à côté, enfin, je fais du graphisme. C'est pas du tout mon... En fait, le label, c'est une structure à but non lucratif, donc il n'y a vraiment pas de volonté de faire de l'argent. J'essaie juste de pas trop en perdre, on va dire. mais j'ai pas de connaissances, j'ai pas fait d'études vraiment pour faire ça. J'ai vraiment appris sur le tas, donc ouais, j'aime bien revendiquer ça, amatrice.
Ouais.
Par contre, le côté graphisme, quand même... Tu le retrouves dans tes études.
Je peux injecter effectivement quand même une partie. La seule partie professionnelle, c'est ça, c'est le graphisme.
Mais ce qui est important, très important. Effectivement.
Les visuels, c'est ce qui marque vraiment une image et qui met vraiment une étiquette sur le label. Peu importe la musique, hein, mais tout de suite, les gens, ok, c'est cool. Il y a des visuels, il y a des jolis visuels.
Ouais, mais toi, justement, d'ailleurs, vas-y. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le Bandcamp de vos trois labels, je trouve, qui sont. Très très joli au niveau du design. Bon, on va revenir sur le label et les images, vas-y.
Et j'allais te dire, justement, toi, le CEP Records, on voit vraiment bien le petit champignon et puis le logo jaune, mais ça vient d'où, ce CEP?
Il est tout mignon,
il est tout mignon, c'est compliqué, ça vient évidemment du sud de la France. Big up à tous mes amis du sud.
Salut le sud.
Voilà, mais non, en gros, c'était pour gagner un nom français et puis c'était des blagues avec le CEP, bref. Et en fait, j'ai travaillé beaucoup sur le visuel avec beaucoup d'artistes, des tatoueurs, des graphistes, pour que ça soit visuel, vraiment, qu'on garde vraiment une image avec des t-shirts, avec des trucs, mais qui soit quand même renouvelé tout en gardant cet esprit champignon. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de designs qui sortent, mais on veut garder quand même l'esprit champignon, quoi.
Garder l'esprit champignon,
l'esprit de la forêt.
L'esprit de la forêt, voilà, c'est ça, c'est tout en restant champêtre, quoi.
Mais c'est vrai qu'il y a une forme de cohérence en fait dans tout ce qu'on recherche comme ça. Ça permet aussi au public effectivement de se retrouver, de dire ah oui, alors ça, je fais confiance à le CEP, à Eden B, parce qu'on connaît. C'est rassurant en même temps. Et puis comme ça, quand il y a un concert d'organiser, on se dit ok, c'est une soirée, le CEP. J'y vais. Peut-être que je connais pas le groupe, mais au moins j'y vais comme ça. Et puis
après, à Paris, c'est compliqué de se faire une place. Voilà, il y a énormément de monde au niveau des soirées, tout ça. Et ça n'a pas été facile. Je parle pour moi, hein, mais du coup, maintenant, c'est bien. On est plutôt pas mal, donc c'est cool.
C'est reconnaissable.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que vous vivez de vos labels ? Donc toi, Manon, tu nous disais que tu as un travail à côté.
Ouais, non, pas du tout.
Moi, je suis bénévole aussi, pareil, je ne vis pas encore du label.
Et toi, François ?
Non, du tout. Comme disait Manon, c'est pas un objectif non plus, je veux dire. Enfin, je pense qu'après, à partir du moment où il y a un côté financier en jeu, c'est peut-être plus compliqué quand même de s'investir totalement, parce que... Il y a une question de rentabilité en jeu et du coup on essaie d'éviter au maximum ça parce que nous l'objectif c'est de faire découvrir des groupes, c'est pas de se rémunérer ou quoi que ce soit. Bon, par exemple, j'ai parlé pour Buddy, quand on fait des soirées, Nous, on ne touche rien, on prend rien sur le cachet des artistes. C'est tout revient aux artistes. Et voilà. Et je pense que c'est important aussi parce que.
Par contre, moi, à l'avenir, j'aimerais bien quand même être rémunéré de tout le travail que je fournis quand même tout seul sur beaucoup de choses. Et je pense que tout travail, tu vois, quand ça permet de, voilà, quand tu peux y arriver, si tu peux prendre un petit, on va dire un petit pourcentage, même si c'est 500 euros par mois, c'est déjà énorme de vivre de ta passion. Et moi, c'est ce que je vais, enfin, c'est ce que j'essaye de mettre en place, quoi. Donc après, voilà, chacun a sa vision.
C'est super aussi d'en vivre, effectivement.
Voilà, c'est ça.
Mais comme on disait, c'est vrai qu'il y a, voilà, chaque label a une envie. Et après, voilà, l'objectif reste le même quand même, comme on disait tout à l'heure, vraiment que des groupes soient découverts en concert, en cassette, etc.
Mais c'est drôle parce qu'on parle d'amateurisme, de professionnalisme depuis tout à l'heure. Et moi, je trouve que les liens, en tout cas dans la musique, dans le cercle de la musique indé, les liens entre les pros et les amateurs, en fait, deviennent assez poreux. On le voit par exemple avec les webzines, où finalement, c'est des amateurs qui lancent ça. Et ils se retrouvent à travailler avec des grosses maisons de disques, avec des attachés de presse, donc des RP, qui sont eux-mêmes professionnels, avec des maisons de disques professionnelles. Et est-ce que vous comment vous percevez, en fait, ce lien un peu poreux entre des gens qui sont pros, des gens qui sont amateurs ? Et qui sont finalement au même niveau.
Mais je crois que Manon, tu as parlé tout à l'heure de se dire que finalement, c'est pas une opposition, en fait. Il n'y a pas une opposition entre le mainstream, donc le côté professionnel, on va dire, et le côté amateur. C'est juste qu'on se complète. Il y a une forme de... On est tous ensemble dans le même esprit. Enfin, peut-être pas esprit, mais plutôt dans la même idée de se dire... l'objectif, c'est quand même de faire jouer des groupes et d'en sortir, quoi.
Antoine, tu paraissais pas trop convaincu.
Non, parce que, oui, mais on n'est pas dans le même esprit que, évidemment, les majors et tout ça. C'est pas du tout...
état d'esprit, tu veux dire.
Ouais, non, c'est pas du tout... Enfin, moi, c'est ma vision, mais je pense que toi aussi.
Et je pense que ça se ressent aussi dans vos...
On va sortir, on va vraiment chercher des trucs qui sont méconnus ou voire pas du tout connus.
Qu'est-ce que t'en penses, Manon ?
Oui, non, c'est vrai, je réfléchissais, c'est assez pour eux. Par exemple, j'ai un petit fanzine de musique... à part, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir avec le label, j'ai même fait ça avant, et tous les jours je reçois des mails envoyés par des pros, pour le coup, des gens qui bossent pour des labels un peu plus gros, et c'est vrai que je ne m'étais jamais trop posé la question de cette différence un peu pro-amateur, je ne sais pas, tant qu'on met beaucoup de temps dans ça...
Moi je ne dirais pas qu'on est amateur, je dirais qu'on est semi-pro, après on prend le terme comme on peut, mais voilà. Sachant que tout le travail qu'on met et tout ce qu'on fait dans la culture de la musique, je considérerais plus qu'on est moins dans l'amateurisme et plus dans le semi-professionnel.
Oui, parce que mine de rien, c'est un métier, quoi, quand même.
C'est tout ça, ce que c'est vous faites. Organisation de concert, plus sortie, plus... Ouais. Voilà, il y a beaucoup de choses, effectivement, mais voilà, c'est beaucoup d'énergie, quoi.
Ouais, non, c'est beaucoup de travail, mais... c'est sûr qu'il faut, il faut pas minimiser travail.
Moi, je me mettrais pas dans l'amateurisme, même.
Et l'apprentissage quotidien. Enfin, en tout cas, j'ai commencé en tant qu'amatrice.
Pareil.
Effectivement, semi-pro, ça me va aussi comme terme.
Voilà, semi-pro, je trouve que c'est pas mal. Ouais,
c'est pas mal.
Ok, c'est bon. Adjugé, c'est bon. Vendu. Et on est à une époque où la musique, elle s'écoute en ligne. Et je me demandais, avec vos labels, comment vous appréhendez ce lien entre la musique et le numérique ? Alors, on sait que Manon, elle aime pas du tout le numérique.
Bah si, elle est comme sur Bandcamp.
Ouais, voilà, Bandcamp.
Sur Bandcamp, effectivement, parce que même si, on va peut-être en reparler après, mais c'est pas. Enfin, la plateforme me plaît, mais je regrette un peu le fait qu'il n'y ait qu'une plateforme, il y a une espèce d'hégémonie.
Tu préférais MySpace ?
Ou Skyblog ?
Je sais pas.
C'est bon.
Mais non, après, moi, là, ce que je dis au groupe, c'est que je ne vais pas m'occuper de la partie distribution numérique, ça m'intéresse à titre personnel pas. Et c'est encore du boulot, et c'est encore un autre système d'équilibre financier, donc je préfère pas m'en occuper. Voilà, enfin ça c'est vraiment un titre personnel.
Juste, du coup, petite question pour toi, mais après on revient à vos réponses, les gars. Du coup, tes artistes, eux, ils vont chercher un distrib
Ceux qui veulent, ouais. Okay. Les artistes qui le veulent, ils s'en occupent eux-mêmes. Il me semble que c'est pas si compliqué, même en tant qu'artiste, d'avoir des offres pour être distribuées sur les plateformes.
Non, ouais, c'est pas compliqué, ça.
De toute façon, je voudrais pas toucher de pourcentage. Enfin, sur les quelques centimes, je pense que,
ouais.
que Spotify va leur laisser. Mais voilà, je leur dis, vous vous en occupez si vous le souhaitez.
Du coup, pardon, allez-y.
Le rapport entre le numérique et enfin notre rapport
le rapport en fait que en tant que label comment vous entretenez en fait le lien entre la musique et le numérique.
Bah ouais, effectivement, sur Bandcamp, quand c'est possible, un maximum. Parce qu'il y a aussi de la vente, en fait, vente de vinyle, cassette. Parce que c'est vrai qu'on dit numérique, mais il n'y a pas que du numérique, il y a aussi, oui, voilà, le côté. On peut vendre. Après, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Manon, le côté hégémonique, il n'y a qu'une seule plateforme. C'est un petit peu dommage. Et puis surtout, c'est un manque de social. Parce que c'est vrai que MySpace, à l'époque, il y avait quand même le côté ami. Enfin, je veux dire, on suivait des groupes. Rien à voir, mais Orelsan, par exemple, on parlait dans un documentaire la dernière fois, il disait il postait des clips vidéo sur MySpace. Quoi. Sur Bandcamp, on ne peut rien poster à part.
Si, tu peux.
On peut poster des clips vidéo sur.
Oui.
Ok.
Pardon.
Ah, je ne savais pas.
Si, tu peux.
Bon, mais il y a quand même moins le côté social.
C'est moins pratique à faire, mais oui, tu peux.
Il faut un compte pro.
Oui, c'est ça.
D'accord. Oui, c'est.
Justement, pour les auditeurs, on va juste préciser ce que c'est Bandcamp pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, Bandcamp, c'est un site qui a été lancé en 2008 et qui est devenu un peu le repère de l'underground numérique. Il permet en fait de vendre des disques sans intermédiaire, donc c'est très pratique pour les artistes indépendants, pour les labels, on peut faire son autopromotion. Et il y avait une super enquête de Sourde Oreille qui est parue en 2018. Sur Bandcamp, justement, je vous incite à aller lire, et elle disait qu'en fait cette plateforme a généré un demi-milliard de revenus en 2017, ce qui est assez colossal finalement, parce qu'on n'arrête pas de parler de l'indé, du manque de moyens, du DIY, et finalement là on se rend compte que voilà, on a quand même une plateforme qui ramène de l'argent, enfin qui fait un bénéfice quand même, quoi. Pourquoi vous utilisez Bandcamp? Alors on a commencé à en parler un peu.
Bah, Bandcamp, c'est la facilité de l'indépendance, on va dire. C'est quelque chose qui est facile à faire. Donc, c'est un site que tu peux créer toi-même, donc, que ce soit un groupe ou un label. Donc,
et une application aussi.
Et une application. Donc, c'est ultra facile. Et du coup, tu peux proposer ta musique, comme MySpace à l'époque. Hein. Tu mets ta musique et puis...
Et en plus, ça peut être gratuit. On peut le mettre en main. Voilà, on peut vraiment mettre en prix libre. En fait, c'est nous qui fixons les règles sur Bandcamp.
Après, ils prennent un pourcentage, évidemment.
Voilà, ils prennent un pourcentage. Mais effectivement, c'est quand même c'est plus accessible. Enfin, c'est accessible pour nous, pour les labels, pour les artistes. Et bon,
c'est commence à être connu maintenant. Du coup, tous les groupes se mettent dessus.
Il y a des groupes qui mettent leur merch aussi dessus.
Ouais, leur merch.
Juste petit récap aussi. Merch, du coup, c'est les marchandises du groupe, les t-shirts,
les goodies.
Voilà. Mais oui, du coup.
Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça aussi. Ça facilite aussi la visibilité, quoi. Ouais.
Et en parlant de visibilité, vous ne trouvez pas que, à l'inverse, les plateformes de streaming invisibilisent les jeunes artistes, les artistes indépendants?
Bah, c'est la facilité, en fait. C'est ça que je trouve. C'est qu'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas. C'est tout de suite.
Tout ce qui est côté playlist.
Mais la facilité, ouais. Pas pour les artistes, du coup. Hein, pour,
Bah, pour les entreprises qui concrètement gagnent de l'argent grâce aux petits groupes qu'ils mettent dans les playlists et c'est tout, quoi. Après, ça peut être aussi bénéfique si, par exemple, un artiste est dans une playlist qui est très écoutée. Mais effectivement, c'est quand même le côté consumériste que nous, en tout cas, on essaie de. C'est pas ce qu'on recherche.
Mais du coup, vous faites comment? Parce que aujourd'hui, pour les groupes qui essayent d'être bookés, d'avoir des concerts, d'avoir des interviews, en général, c'est aussi quand ils ont à partir de 10 000 likes, 10 000 vues sur tel machin que ça marche. Du coup, vous, est-ce que vous arrivez à contrer ça? Est-ce que vous en foutez de l'algorithme? Est-ce que vous arrivez à vous démerder sans l'algorithme?
Bah, c'est difficile de contrer l'algorithme. Hein. Je ne sais pas pour toi. Mais
d'où l'importance de créer un réseau dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que par exemple, chez Buddy, on avait eu un objectif l'année dernière, c'était de créer un petit réseau, notamment des concerts. Par exemple, faire jouer un groupe à Paris et ensuite l'envoyer en province, donc Bretagne, Normandie, dans le Nord, etc. Comme ça, ça permet de contrer, en fait, de dire c'est pas Spotify ou quoi que ce soit, c'est nous qui proposons directement. Et puis, ça évite aussi le côté toujours recherché, comme vous disiez, des likes. Voilà. Après, c'est très bien, il y a des artistes qui réussissent grâce aux likes, mais ce n'est pas notre objectif non plus.
Ouais, je pense qu'il ne faut pas non plus trop se focaliser sur ça, parce qu'on ne part pas avec les mêmes moyens. Et, moi, j'évite de regarder, j'évite de penser à tout ça maintenant. Au début, j'y pensais pas mal. Et maintenant, je considère qu'il y a un travail à faire en dehors de tout ça et que c'est à nous vraiment de le faire, ce boulot.
Mais même des promoteurs qui regardent les likes, juste les likes, ils n'écoutent même pas la musique. S'ils voient que tu as, je sais pas, en dessous de 1000 likes, ils ne te bookent même pas.
Après, est-ce que tu as envie de travailler avec ces personnes-là aussi? Bon,
oui, voilà, mais après, des fois, t'as pas le choix. Si, voilà, c'est ça, ouais. C'est ça le truc.
Ouais, d'où ma question, effectivement.
Bah, disons que Spotify pose des problèmes autant pour vous, enfin, en tant que soit label, soit artiste, mais aussi pour les gens qui vont chercher. Enfin, on se rend bien compte que quand on écoute sur Spotify, on a toujours les mêmes. L'algorithme fait revenir toujours les mêmes recommandations, les mêmes artistes. Il y a même une sorte de playlist qui s'appelle En boucle. Et je ne comprends pas comment on peut renouveler son écoute si la playlist s'appelle En boucle.
C'est complètement celle-là.
Donc ça s'appelle En boucle, c'est des titres que vous écoutez le plus, mais du coup ça ne se renouvelle quasiment jamais. Et je pense qu'après, les gens qui sont fans, qui ont envie d'écouter, qui sont passionnés comme vous, vont aller fouiller.
Et on parle de Spotify, moi je n'ai pas Spotify et je bannis Spotify. Même si je travaille sans le vouloir avec le distributeur digital, je suis obligé, mais je n'ai pas Spotify.
Ouais, puis tu parlais d'invisibilisation tout à l'heure, effectivement. Je veux dire, on va toujours écouter les mêmes groupes, et peut-être en parler tout à l'heure, mais au niveau des mêmes groupes de rock qu'on verra dans les grands festivals. Mais c'est vrai que si on veut mettre en avant des artistes peut-être plus engagés aussi, des fois, parce que c'est un petit côté politisé de refuser l'algorithme. On parlait de Bandcamp, il y a aussi ce côté politique finalement, de se dire on peut vivre à côté.
Ouais, tout à fait.
Il existe une vie en dehors du numérique, une vie réelle.
C'est pas vrai.
Si, c'est un scoop. Et ceci dit, le numérique, il a été bien pratique quand même pendant la crise sanitaire. Peut-être même un peu trop, c'est peut-être un peu trop immiscé dans nos vies aujourd'hui. Mais comment est-ce que vous avez vécu les confinements et toutes les restrictions successives avec vos labels?
C'était pas si mal. J'ai l'impression que les gens, pendant le premier confinement, en tout cas, avaient vraiment... Enfin, même personnellement, j'avais besoin d'écouter de la musique. Et ensuite, moi, j'ai pas fait d'envoi de commandes. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait.
J'en ai fait énormément. Ça a pas mal vendu, bizarrement. Je pense que j'ai jamais autant marché que...
Ouais, moi, j'ai eu pas mal de commandes, mais j'allais pas les poster tout de suite. Mais par contre, après, quand c'était possible
quand tu peux poster,
là, c'est vrai que ça a beaucoup marché. Ouais.
Plutôt en cassette, vinyle, en tout
Beaucoup de vinyle. Ouais, après, moi, j'ai beaucoup de vinyle.
En tout, ouais.
Chez Buddy Records, c'était plus compliqué parce qu'en fait, on a sorti des disques pendant le confinement. Et effectivement, nous, on a plus ce côté de label booking. Donc, on a besoin des concerts, en fait, pour toucher les gens. Parce que c'est aussi une activité qui est très importante pour nous. Donc, ça a été plus compliqué à vivre. Mais on s'est rattrapé depuis avec en gagnant le concert. Voilà.
Et justement, l'après-Covid, ça s'est passé comment alors?
Je pense qu'on était tous un petit peu... On ne savait pas trop à quoi s'attendre. C'était un petit peu une peur. Voilà, concrètement, on avait un petit peu peur. Et finalement, depuis la rentrée, je trouve que ça bouge pas mal. Quoi. Enfin, ouais, en tout cas, sur Paris, même en Normandie, parce que tu as pas mal de groupes normands.
Oui, j'ai beaucoup de normands à la maison. Oui.
Et non, ça c'est reparti, en fait, finalement.
Ça a réussi à redécoller, parce que j'avais entendu parler pas mal d'embouteillages de sorties, encore aujourd'hui, de sorties, de concerts. Tout se chevauche,
c'est compliqué. Il faut vraiment anticiper tout. Voilà. C'est de l'anticipation je dirais 3-4 mois. Voilà.
Ouais, c'est un peu bouchonné dans les usines de vinyle, notamment.
Oui, on n'arrêtait pas de parler de ça. J'ai pas rebondi tout à l'heure, mais on parlait des pressages qui sont assez longs. Il y a une crise autour du coup de la production de vinyle.
La matière première. Du coup, on est entre, ça dépend les usines, mais c'est du 16 semaines jusqu'à 24 semaines pour avoir un pressage.
Ah oui,
c'est long. Faut pas qu'il y ait de problème en plus.
Exactement.
Donc faut sortir des cassettes.
Et ouais, voilà.
Sortir des cassettes. Mais les cassettes, c'est pas loin non plus.
Il y a ta demande.
Oui.
Et moi, j'avais encore une question. Ou alors, Louise, tu veux te lancer dans une autre question. Il me semble que là, on est en train de parler quand même d'une époque Covid, numérique. Mais il y a quand même des trucs un peu plus positifs. C'est de la prise de conscience vis-à-vis de la place des femmes dans la musique. Notamment, là, on voit qu'il y a pas mal de collectifs qui se sont lancés. Il y a eu d'abord Music 2, mais après, il y a eu Change de Disque. Récemment, Go Girls pour défendre nos droits. Comment vous réagissez face à ça?
Moi, perso, j'adore. J'ai envie de dire, il était temps. Et ça fait plaisir.
Il était temps, mais on accompagne, quoi. Enfin, je pense que c'est notre rôle aussi des labels quand on parlait d'amateurisme ou de semi-pro.
Après, je pense que t'as plus ta place pour en parler, mais.
Mais ce côté juste accompagner, je pense que c'est notre rôle aussi de dire, on est conscient de ça et on va faire le maximum parce que voilà, il y a des groupes de toute façon dans tous les styles, dans tous les genres, littéralement. Donc, c'est à nous de faire l'effort aussi.
Pour moi, il n'y a pas d'inégalité. Enfin, en tout cas, quand je gère des groupes ou quoi, enfin, tout le monde est logé à la même enseigne, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est une base de... Enfin, pour moi, ça me paraît normal. Apparemment, pas pour tout le monde. Donc, c'est un peu bizarre, mais...
Ouais, j'ai l'impression que c'est encore que le début. Il y a des articles qui sortent, par exemple, sur le milieu punk. Moi, bon, enfin, c'est vrai que j'ai monté le label avec Cécile. Nous, on s'est dit, bon, ben, super, quoi, deux filles. après, on a vraiment vécu des trucs. Enfin, la plupart du temps, c'était pas forcément violent, mais si les gens connaissent pas, nous connaissent pas personnellement, par exemple, les étrangers, ils vont tout de suite penser qu'on est, ils pensaient qu'on était deux hommes, quoi. Ça, c'était tout le temps. J'ai aussi remarqué.
Ils devinaient que vous étiez. Ils partaient du principe que vous étiez des hommes tant qu'ils vous avaient
pas
vu.
C'est ça, parce que effectivement, la majorité des labels, quand même, est tenue par des hommes. Et moi, je reçois beaucoup de démos, comme je disais tout à l'heure. J'ai remarqué que vraiment 95% des démos que je reçois sont des artistes masculins ou des groupes avec uniquement des hommes. Et j'ai pris conscience de ça il y a pas très longtemps. Et je pense qu'il y a, bon, il y a plein de raisons qui font que. On aboutit à cette situation, mais c'est un peu triste et je pense qu'on a un peu du travail aussi nous pour sortir plus d'artistes féminines et après ça aura des répercussions sur le live avec peut-être des plateaux un peu plus mixtes. Il y a encore un peu de travail.
Moi, je trouve
qu'il
y a une nouvelle scène qui arrive là. Moi, je sors beaucoup de groupes avec des meufs du coup l'année prochaine. énormément, je crois que j'en ai au moins 5 sur l'année, donc c'est voilà, c'est cool. Je soutiens vraiment voilà.
Ouais, j'allais justement vous demander, vous faites comment du coup, enfin vous essayez de mettre en place un peu plus de recherche pour avoir un 50-50 ou est-ce que vous essayez de prioriser
j'essaye de créer une parité, même si forcément tu peux pas tout gérer, mais même dans les concerts, que ça soit qui quand même une côté féminin qui soit présent, et je trouve ça que c'est ultra important, surtout en ce moment et surtout dans les sorties. Donc là, je vais organiser un truc le 28 janvier et je voulais que ça soit girl power à fond avec que des groupes du label. Bon, il se trouve que ça va pas être possible parce qu'il y a un groupe qui annule, mais du coup, voilà, je veux vraiment que ça garde ce côté féminin et mettre en avant toute cette scène qui est plus ou moins, on sait pas pourquoi, mais en dessous, alors qu'au final, les filles, elles déchirent quoi.
C'est enfin leur donner de la visibilité. Exactement. Même dans les festivals.
On parlait de White Lake tout à l'heure. Enfin, comment, voilà, c'est...
White Lake était hier dans Icos.
Exactement.
L'enregistrement de Icos, de l'émission de Ginny Beff qui passera sur Arte, je ne sais pas quand, mais qui a été enregistré en tout cas hier.
Voilà.
Avec une super programmation, avec White Lake notamment, qui est un groupe essentiellement féminin. Je crois qu'il y a un garçon seulement.
Non, il y a trois mecs.
Trois mecs.
Trois mecs de filles.
Parce qu'ils ont les cheveux longs, c'est pour ça.
Ah, non.
Vieux raccourcis. C'est parti.
Non, mais effectivement, tu parlais du booking. Je pense que, voilà. En fait, je pense qu'il faut que ça soit aussi naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche spécifique. C'est simplement qu'on essaye aussi de varier nos recherches. Par exemple, sur Bandcamp. Voilà, on tombe sur un groupe, on écoute, ça nous plaît peut-être moins, mais on fait peut-être un effort supplémentaire aussi de dire est-ce qu'on peut pas donner sa chance. Et puis de toute façon, le live est souvent différent du disque aussi, donc ça peut se faire comme ça. Je pense que le live est vraiment important pour créer une dynamique. Maintenant, on parlait de cette dynamique. Voilà, bon, après, moi, pour le coup, j'ai une autre vision parce que je suis quelqu'un de non-blanc. En fait, donc c'est pareil au niveau des personnes non blanches dans le milieu de la musique, même indépendante, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de représentation. Ouais. Et effectivement, le fait d'en voir sur scène, ça nous donne envie. On se dit bon, ok, il y en a. On peut essayer de faire partie aussi de ce mouvement. C'est motivant en fait. C'est rassurant et motivant. Et je pense que c'est le live est essentiel pour ça.
Mais comme tu dis, je pense que la scène a une importance et qu'il faut valoriser aussi des événements où il y a, comme tu dis, des personnes non blanches ou alors des personnes qui sont des femmes ou qui sont uniquement des femmes.
Il faut qu'on marche tous la main dans la main, c'est pas compliqué, sinon ça sert à rien de... Voilà, on est tous des humains, enfin bref, c'est ma vision des choses.
Comme des vrais bisounours.
Exactement, mais c'est...
C'est tout ce qu'on veut.
Mais non, c'est, voilà, c'est à nous de faire l'effort et puis ça demande plus d'énergie, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, de recherche. Mais bon, c'est... Ouais, c'est à nous quoi.
Mais on va de l'avant et il y aura de plus en plus d'égalité, on l'espère.
Oui. Et du coup, est bien parti en tout cas et c'est cool qu'il y ait autant de gens qui se motivent pour mettre tout ça en avant.
En fait, je pense sincèrement que le public est disponible. Les gens sont prêts.
Ils sont ouverts.
Ils sont ouverts. Simplement, alors après, no offense to anyone, mais c'est peut-être pas l'état d'esprit avant. ou moi en tout cas, mm-hmm. et ça commence à venir. Donc, faut continuer à dynamique, quoi.
Bah, le public s'approprie le truc aussi et est réceptif à tout ce type d'événements. Et on parlait d'avenir, on commençait à parler d'avenir, justement. Ça va aller mieux dans l'avenir. On espère, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez prévu avec vos labels, des prochaines sorties, des prochains événements? Est-ce que vous voulez nous révéler des trucs?
Manon. Alors moi j'essaye de lever un tout petit peu le pied pour l'année prochaine, mais j'ai quand même des sorties là qui se mettent en place. Je vais rien dévoiler parce qu'il n'y a pas encore de date de sortie fixée, mais ça va être trois groupes français. Là, les trois prochaines sorties, c'est des groupes français, dont un groupe de Strasbourg, si ça peut donner un indice.
Donc chez Eden Bay Records, voilà. Trois prochains groupes français.
Oui. On note et on les suit.
Du coup, pour le CEP, y a beaucoup de sorties de prévues pour l'année prochaine. On est quasiment full sur le calendrier.
T'as une petite exclu à
lancer. L'exclu, après, on peut balancer déjà la prochaine sortie qui est vendredi, le prochain album de You Said Strange, Thousand Shadows. Yes. Et par contre, l'année prochaine, y a une dizaine de groupes qui sont déjà prêts. Je peux pas trop balancer parce que voilà, mais c'est en préparation.
Donc un nouvel album de Youssef Strange ce vendredi.
Et ils seront en concert à la Maroquinerie le 17 décembre.
Merci Juliette.
On y sera.
Et du coup, n'oubliez pas demain, release party des We Hate You Please Die à Petit Bain.
Oui. Donc demain, on sera le 2 décembre, jeudi 2 décembre, sur la péniche du Petit Bain.
Et chez Buddy ?
Moi, chez Buddy, on va lever le pied, littéralement, au niveau des sorties. Non, en fait, on va plutôt se concentrer sur le booking, en fait. Je pense qu'on a aussi besoin de repartir dans le côté... dans ce côté-là, booking, qu'on appréciait, que les gars ont fait pas mal, donc on va continuer. Notamment les exclusivités, par exemple, là, le 14 février, à l'Espace B, on fait jouer Géo, qui est un petit groupe hollandais. Mmh. Et voilà, ça serait notre Saint-Valentin à nous pour la nouvelle année.
Wow. Super, si vous voulez un date, voilà, vous savez où aller le 14 février
avec Buddy Records.
Ouais,
vas-y.
Bon, non, moi j'allais juste dire que c'était super de vous avoir tous rencontrés. Merci beaucoup d'être venus.
Merci.
Est-ce merci que,
un dernier petit mot, non? Qu'est-ce qui va se passer? Personne? Eh ben merci.
J'aimerais bien dire quelque chose quand même, on va pas rester sur ça.
Ok Anton.
Écoutez, aimez le garage, voilà, c'est tout ce que je pourrais rester. Voilà.
Tous dans le garage.
Le garage,
c'est parti.
Le indie, tout ce qui est
Faites vivre la scène indépendante.
Faites vivre la scène indépendante, tout à fait.
Et achetez des cassettes.
Et achetez des cassettes, en
pas
plus,
juste pour caler
beau.
Le frigo, juste pour les écouter.
Écoutez-les. Super, et merci beaucoup d'être venu. On va se revoir dans la vraie vie très vite, j'espère.
On va boire des coups, là, non?
Voilà.
mais
pour vous, auditeurs, tout de suite, parce que c'est la fin et que on est comme ça, on est un peu émotionnel, on vous laisse sur un son mélancolique. I Only Dream of You Once a Week, pardon, de Pam Rizourier. C'est leur dernier single et c'est un live au Trabendo. Parce qu'on n'aime pas vous laisser si tôt, on vous a concocté aussi une petite playlist qui arrive juste après avec des artistes du CEP, de Buddy et de Hidden Bay Records, évidemment. Des bisous. We'll be right back.
Time until it. Radio. Campus. Paris. Il est 22h30.
C'est quoi ? C'est la note antique de Cyril Marche sur Radio Campus Paris, à la découverte de la musique.